Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour et bonsoir selon l'heure que vous nous suivez. Ravi de vous retrouver en ce mercredi 25 août 2021. Nous allons tout de suite vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Aéroport de Kaboul, GIs ou passeurs. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, le débat parlementaire pour le vote de confiance au cabinet du président Raïssi se poursuit ce mercredi pour un cinquième et très probablement le dernier jour. L'Iran condamne les violations des droits de l'homme en Afghanistan. Et puis la Russie accuse Washington de tentative de convaincre plusieurs pays d'Asie centrale d'accueillir des troupes US pour d'éventuelles attaques contre l'Afghanistan. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le débat parlementaire pour le vote de confiance au cabinet du président Raïssi se poursuit ce mercredi pour un cinquième et très probablement le dernier jour. Les législateurs ont jusqu'à présent examiné les qualifications de 15 des 19 choix sur la liste Raïssi pour les postes ministériels. Depuis samedi, les ministres proposés se présentent sur le podium pour présenter leurs plans et se défendre. Puis leurs partisans et opposants interviennent à la tribune du Parlement pour parler pour ou contre. Un vote de confiance est attendu cet après-midi pour l'ensemble de la liste une fois l'examen achevé. Ibrahim Raïssi devra présenter une dernière défense de ses choix au Parlement avant le vote. Tous les candidats devraient remporter le vote de confiance. Cependant, si l'un d'entre eux échoue, le président aura jusqu'à 3 mois pour nommer un remplaçant. L'Iran condamne les violations des droits de l'homme en Afghanistan. Ismail Barahi Hamaneh, ambassadeur et représentant permanent d'Iran auprès des Nations Unies à Genève, a déclaré que Téhéran condamne fermement toute violence et extrémisme et les violations des droits de l'homme en Afghanistan. Les Afghans méritent de vivre dans la paix et la dignité chez eux et d'avoir des relations de bon voisinage avec leurs voisins sans ingérence militaire illégale, a déclaré M. Barahi dans un discours prononcé lors d'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme sur l'Afghanistan tenue à Genève. Cela ne peut être réalisé que grâce à un gouvernement inclusif et pluraliste, composé de toutes les composantes religieuses et ethniques de la société afghane. Le processus de paix et de réconciliation de l'Afghanistan doit être accéléré à cette fin. Les réalisations du peuple afghan ne doivent pas être compromises, a ajouté ce haut diplomate. L'Iran condamne fermement tous les actes de violence et d'extrémisme, les violations des droits de l'homme en Afghanistan. Aucun crime ne doit rester impuni, a souligné encore M. Barahi. La situation actuelle en Afghanistan n'est pas sans rapport avec l'intervention militaire à long terme menée par les États-Unis qui a confronté le pays à des destructions, des souffrances, un désespoir et une instabilité sans fin et a propagé l'insécurité et l'instabilité dans la région. Les Américains ne peuvent pas échapper au fardeau de la responsabilité des conséquences désastreuses d'une présence militaire catastrophique là-bas. L'Iran, un pays voisin, ayant des liens très étroits avec l'Afghanistan, a accueilli des millions de réfugiés afghans au cours des 4 dernières décennies, a précisé l'ambassadeur. Le représentant de la République islamique d'Iran a également appelé la communauté internationale à assumer sa responsabilité en aidant à l'attribution de vaccins appropriés pour la vaccination des réfugiés afghans contre le Covid. Au cours des dernières décennies, l'Iran a fait tout son possible pour aider l'Afghanistan à se développer en tant que pays stable et sûr. Nous avons fait de notre mieux pour faciliter les pourparlers de paix entre Afghans et nous continuerons de le faire, a conclu l'ambassadeur iranien. Sachez également que Joe Biden confirme le retrait des Américains au 31 août malgré la pression de l'Union européenne. Le président américain a déclaré que l'évacuation des troupes des citoyens étrangers d'Afghanistan devrait s'achever avant la date limite du 31 août. Joe Biden a déclaré que toute prolongation de la date limite risquait de nouvelles attaques contre les troupes étrangères et les civils à l'aéroport de Kaboul. Il a noté que l'achèvement des opérations d'évacuation dépend de la volonté des talibans de coopérer. Le président américain a toutefois déclaré qu'il avait demandé au Pentagone de proposer des plans d'urgence si les départs ne se terminent pas avant la date limite. Cela faisait suite à une réunion virtuelle des dirigeants du G7 sur les développements en Afghanistan. Ils ont exprimé leur soutien aux Nations Unies pour coordonner les efforts humanitaires dans la région qui fait face à un afflux de réfugiés afghans. Lors du sommet, Angela Merkel, la chancelière allemande, a promis que l'Allemagne donnerait 100 millions d'euros d'aide immédiate à des fins humanitaires et 500 millions supplémentaires plus tard. Le premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que les dirigeants du G7 se sont mis d'accord sur une feuille de route pour s'engager avec les talibans. Il a souligné la nécessité de faire pression sur les talibans pour garantir les droits des femmes et empêcher que l'Afghanistan, je cite, « ne devienne ce qu'il a appelé un terrain fertile pour le terrorisme et un narco-État ». Les talibans ont rejeté toute prolongation de la date limite du 31 août pour le retrait complet des troupes américaines et étrangères d'Afghanistan. Sachez également que la Russie a déclaré que Washington tentait de convaincre plusieurs pays d'Asie centrale d'accueillir des troupes américaines pour d'éventuelles attaques contre l'Afghanistan. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a déclaré que son pays était prêt à faire la médiation pour régler la crise afghane. Il a déclaré qu'il était regrettable que l'Union européenne craigne que la chute de Kaboul et la prise du contrôle du pays par les talibans soient une évolution au profit de Moscou, de Pékin. L'autre haut diplomate russe a déclaré que de telles remarques montrent que le bloc est obsédé par la politique politisée et fait fi du sort des Afghans ordinaires. Dans le même temps, la Chine a déclaré que l'armée américaine et les militaires des autres partenaires de la coalition devraient être tenus responsables des violations présumées des droits de l'homme qu'ils ont commises en Afghanistan. Revenons à l'actualité iranienne. Le port iranien de Chabahar devient membre de l'Organisation mondiale des zones franches. L'Organisation mondiale des zones franches a annoncé l'adhésion de la zone franche de Chabahar au sud de l'Iran à cette institution internationale. Selon une lettre envoyée par le docteur Samir Hamrouni, directeur exécutif de l'Organisation mondiale des zones franches, à Abdelrahim Kordi, PDG de la zone franche de Chabahar, le port iranien au bord de la mer d'Oman sera dénommé membre permanent de cette institution avec droit de vote, peut prendre une part active et effective aux décisions et événements des zones franches du monde. La lettre exprime également l'espoir que la zone franche de Chabahar et l'Organisation mondiale des zones franches pourront avoir une voix unifiée dans le monde en s'aidant mutuellement et en coopération avec d'autres zones franches dans le monde. L'Association mondiale de l'acier a annoncé une augmentation de 12,4% de la production mondiale d'acier brut au cours de 7 premiers mois de cette année et selon ce rapport, la production de ce produit stratégique en Iran a augmenté de 9,9%. Selon l'Organisation pour le développement et la rénovation des mines et des industries minières d'Iran, IMIDRO, la production mondiale d'acier brut au cours des 7 premiers mois de cette année était de 1,165,300,000 tonnes, ce qui indique une croissance de 12,4% par rapport à la même période l'an dernier. L'Association mondiale de l'acier a annoncé au cours de cette période la production d'acier brut de l'Iran a augmenté de 9,9% par rapport à la même période. De début janvier à la fin juillet 2021, la Chine est toujours en tête de la production mondiale. L'Inde, le Japon, les États-Unis et la Russie se classent respectivement au 2e, 3e, 4e et au 5e rang de la production mondiale d'acier. L'Iran est toujours la 10e plus grande puissance sidérurgique dans le monde. L'actualité régionale, un Palestinien est décédé des suites de ses blessures après être abattu par les forces israéliennes dans la bande de Gaza assiégée. Osama Khaled, 32 ans, a été blessé par balle lors d'une manifestation anti-israélienne samedi. Au moins 40 autres Palestiniens ont été blessés par les forces israéliennes lors de la manifestation à l'est de la ville de Gaza. Il marquait le 52e anniversaire de l'incendie de la mosquée Al-Aqsa par Israël. La mort d'Oussama Khaled survient un jour après qu'un autre Palestinien ait été abattu par les troupes israéliennes. Imad Hashash, un adolescent, a été tué lorsque les forces israéliennes ont attaqué un camp de réfugiés près de Naplouse au nord de la Cisjordanie occupée. Les tensions sont restées élevées en Cisjordanie et à Gaza ces derniers mois, alors qu'Israël a intensifié sa répression contre les Palestiniens. La Chine et les États-Unis se sont mutuellement accusés d'intimidation et de coercition, car les deux restent en désaccord sur des questions clés, notamment la sécurité en mer de Chine méridionale. La vice-présidente américaine a fait ses commentaires lors d'entretiens avec des responsables vietnamiens à Hanoï. Harris est là dans le cadre de sa tournée asiatique. Plus tôt, depuis Singapour, la vice-présidente américaine a accusé Pékin mardi d'exercer des pressions et intimidations sur les pays du pourtour de la mer de Chine méridionale, alors que Washington cherche à renforcer ses alliances face à la Chine. Les médias d'État chinois ont déclaré que les commentaires de Harris visaient à creuser un fossé entre Pékin et d'autres pays de la région. Le ministère chinois des Affaires étrangères a également réagi, accusant les États-Unis de comportement hégémonique. Pékin a déclaré que Washington se cache derrière la rhétorique d'un ordre mondial fondé sur des règles visant à défendre ses intérêts intéressés. Enfin, le Venezuela a déclaré avoir remis un rapport à la Cour pénale internationale sur les dommages causés par les sanctions américaines contre le pays. Le ministre vénézuélien Rodriguez a déclaré qu'il y avait des motifs raisonnables, que les autorités américaines aient commis ce qu'il a qualifié d'actes inhumains contre la population civile vénézuélienne. Il a déclaré que les crimes de meurtre, de persécution et d'extermination font partie de ces actes. Les États-Unis ont intensifié leurs mesures punitives contre le Venezuela au cours des dernières années. Il a fait à la suite des élections présidentielles vénézuéliennes de 2018, qui, selon l'opposition, avaient été truquées. Les États-Unis ont également apporté leur soutien au chef de l'opposition, Juan Guaido, qui s'est déclaré président en janvier 2019. Le Venezuela a exhorté à plusieurs reprises les États-Unis à cesser de s'ingérer dans ses affaires intérieures. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Les soldats US se font payer de 500 à 2000 dollars par civil afghan. Les soldats américains déployés à l'aéroport de Kaboul extorquent jusqu'à des milliers de dollars aux Afghans voulant quitter leur pays. Un nouveau scandale pour les Américains. Les soldats qui sont chargés d'assurer la sécurité de l'aéroport de Kaboul extorquent entre 500 et 2000 dollars aux Afghans qui tentent de quitter leur pays. Après la publication des images choquantes montrant les comportements inhumains des soldats américains envers les citoyens afghans, la Maison-Blanche tente de s'acquitter à l'aide des médias mainstream. Or, certains Afghans qui ont quitté leur pays réaffirment que les forces américaines les forçaient à payer une somme variant de 500 à 2000 dollars pour leur permettre de sortir de l'aéroport. Le CENTCOM n'a pas encore réagi à ces rapports. Après la prise de pouvoir par les talibans, une foule immense d'Afghans, notamment ceux qui coopéraient sous une forme ou une autre avec les forces étrangères pendant les 20 dernières années, s'est ruée vers l'aéroport de Kaboul, espérant pouvoir sortir du pays par l'aide des Américains qui les ont complètement déçus. Les militaires de l'armée américaine et ceux d'autres pays de l'OTAN ont privilégié leurs affaires, chiens et boissons alcooliques aux Afghans pour emporter à bord des avions. Par ailleurs, le site d'information Sudfront s'est référé à la Bundeswehr allemande, rapportant qu'un responsable de la sécurité afghan avait été tué et 3 autres blessés lors d'un échange de tirs à l'aéroport international de Kaboul le 23 août. La fusillade a eu lieu près de la porte nord de l'aéroport international Hamid Karzai de Kaboul. Selon des responsables allemands, les forces américaines et allemandes ont également été impliquées dans la bataille. Le 21 août, le ministère britannique de la Défense a confirmé la mort de 7 Afghans près de l'aéroport. Ils auraient été tués en foule alors qu'ils tentaient de s'introduire sur le territoire de l'aéroport. Les forces militaires ont reçu l'ordre de ne laisser entrer que les citoyens américains et de l'OTAN dans l'aéroport. Les Afghans qui ont demandé des visas d'immigrants spéciaux aux États-Unis ont été priés de rester à l'écart et d'attendre de nouvelles notifications. Les forces américaines doivent se dépêcher car les talibans ont confirmé qu'ils n'accepteraient pas une prolongation de la mission d'évacuation d'Afghanistan. Cette décision signifierait l'extension de l'occupation et c'est une ligne rouge, a déclaré Sohail Shahin, membre de la délégation des talibans à Doha. Selon le Pentagone, 16 000 personnes ont été évacuées d'Afghanistan au cours des dernières 24 heures. Pendant ce temps, le 23 août, tous les vols à destination et en provenance de l'aéroport de Kaboul ont été à nouveau suspendus jusqu'à nouvel ordre en raison d'une grande foule de personnes souhaitant quitter le pays. Peu après l'annonce de la suspension des vols, un incendie se serait déclaré sur le territoire de l'aéroport. L'information tombe alors que, selon Washington Post, le directeur de la CIA a tenu une réunion secrète lundi à Kaboul avec le numéro 2 des talibans, Abdel Ghani Baradar, lors d'un face-à-face au plus haut niveau entre les talibans et l'administration Biden. La CIA a refusé de commenter la réunion, mais les discussions ont probablement impliqué une date limite imminente du 31 août pour que l'armée américaine conclue son pont aérien des citoyens américains et des alliés afghans. L'administration Biden est sous la pression de certains alliés pour maintenir les forces américaines dans le pays au-delà de la fin du mois pour aider à l'évacuation de dizaines de milliers de citoyens des États-Unis et des pays occidentaux ainsi que des alliés afghans. La Grande-Bretagne, la France et d'autres alliés des États-Unis ont déclaré qu'il fallait plus de temps pour évacuer leur personnel. Mais un porte-parole des talibans a averti que les États-Unis franchiraient une ligne rouge s'ils maintenaient leurs troupes au-delà de 31, ce qui, selon lui, aurait des conséquences.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce vendredi 20 août 2021. Dans un discours télévisé, le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, a affirmé que les États-Unis continuent de répéter les mêmes erreurs dans la région avec une politique étrangère mal calculée. Cet Hassan Nasrallah a souligné que l'affirmation de Washington selon laquelle les États-Unis en effet combattent Daesh est un mensonge complet, d'autant plus que les États-Unis en effet cherchent à ressusciter le groupe terroriste Daesh dans le cadre de leurs propres intérêts dans la région. Cet Hassan Nasrallah a également mis en garde contre la présence militaire américaine en Syrie, mais aussi dans la région, et appelé au retrait total des forces d'occupation américaines dans la région, y compris de l'Irak. En ce qui concerne la crise du carburant au Liban, cet Hassan Nasrallah a fait état de la livraison par la République islamique d'Iran du carburant au Liban et mise en garde des États-Unis et surtout le régime sioniste contre toute tentative d'arrêter la livraison du carburant au Liban en provenance de la République islamique d'Iran. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ce discours du secrétaire général du Hezbollah libanais et surtout cette annonce stratégique de la livraison du carburant au Liban par la République islamique d'Iran. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Le secrétaire général du mouvement de résistance libanais, le Hezbollah, a déclaré que la présence des forces américaines dans la région visait à ressusciter le groupe terroriste Daesh.
Les gouvernements de la région et les groupes de la résistance ont éradiqué le groupe terroriste de Daesh et n'ont pas besoin de l'assistance américaine. Il est évident que les forces américaines dans la région cherchent à ressusciter les groupes terroristes.
Nasrallah a déclaré que l'affirmation de Washington de combattre Daesh en Syrie était un mensonge flagrant, appelant au retrait des États-Unis de ce pays. Il a affirmé que l'échec des États-Unis en Afghanistan avait clairement montré que les pays de la région ne devaient pas fonder leurs espoirs sur les États-Unis qui, selon lui, ont l'intention de conserver leur emprise hégémonique sur la région et les ressources de l'Asie occidentale. Le leader du Hezbollah a également décrit la décision du gouvernement irakien d'expulser les troupes américaines comme une réalisation importante, affirmant qu'elle est le résultat des sacrifices consentis par les groupes de la résistance. Il a également exhorté tous les musulmans à soutenir les Palestiniens et leur résistance à l'oppression et à l'occupation israélienne. Nasrallah a souligné que le mouvement de résistance est prêt à défendre la souveraineté du Liban.
En ce jour de l'Ashura, nous voulons envoyer un message clair à nos ennemis et amis qu'aucun développement ne pourra porter atteinte à la résistance. Les groupes de résistance sont entièrement disposés et déterminés à défendre l'indépendance et la souveraineté du Liban.
Nasrallah a également évoqué les crises au Liban et a rejeté les allégations selon lesquelles le Hezbollah entraverait les efforts pour la formation d'un nouveau gouvernement. Il a souligné que le Hezbollah attend l'issue des pourparlers entre le président Michel Aoun et le premier ministre désigné Najib Mikati. Nasrallah a exhorté le peuple libanais à se tenir aux côtés du gouvernement et à éviter les actes de provocation. Il a accusé les États-Unis de mener une guerre économique et une campagne de guerre médiatique contre le Liban dans le but de servir les intérêts du régime israélien. Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a par ailleurs annoncé qu'un navire transportant du carburant iranien mettrait le cap sur le Liban, affirmant que le mouvement de résistance considérerait ce navire et d'autres pétroliers transportant du carburant iranien comme territoire libanais dans un avertissement apparent à Israël et aux États-Unis.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Damas, Maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique. Et depuis Beyrouth, Madame le docteur Radda Obala, géopoliticienne. Madame Obala, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour. Bonjour à vous et à tous les auditrices et auditeurs de Presse TV.
Madame Obala, alors le discours du secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, portait en effet sur plusieurs points, entre autres la crise du carburant au Liban. Donc nous allons commencer, si vous voulez, avec cette annonce stratégique de Saïd Hassan Nasrallah sur la livraison du carburant au Liban par la République islamique d'Iran. Quelle a été en effet d'abord la portée de ce discours et surtout l'importance et l'impact de ce discours sur l'ambiance politique et sociale au Liban?
D'abord, comme vous l'avez bien souligné, l'importance stratégique de cette annonce, elle s'est traduite par la première réaction de l'ambassadrice des États-Unis au Liban, l'ambassadrice Shia, qui, dans un communiqué, a annoncé qu'elle allait assurer au peuple libanais et le gaz de l'Égypte et l'électricité de la Jordanie. Donc, cette réaction immédiate de la part des États-Unis reflète bien l'importance stratégique, justement, de l'annonce du secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, premièrement. Deuxièmement, son discours était lui-même stratégique puisqu'il a commencé son discours avec le dossier palestinien, donc pour souligner toujours la boussole de l'axe de la résistance, à savoir la libération de la Palestine, de l'entité sunniste. Deuxième, dans le deuxième volet de son discours était les factions irakiennes, dont le Hashd al-Shaabi, en rappelant aussi quelle était la position de Saïd Sistani face à la lutte contre Daesh. Et enfin, il a terminé par le Liban. Si vous remarquez dans ces trois volets, qui sont des volets régionaux, ce sont des volets dont le facteur commun est l'axe de la résistance. Il a insisté donc sur la résistance de trois pays à travers des factions et non pas à travers l'État. Et c'est ça la nouveauté. C'est-à-dire, cela ne veut pas dire qu'il est contre la souveraineté de l'État.
Merci infiniment, Madame Obala, pour ces précisions. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite à rejoindre à Damas, Maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique. Maître Develay, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux auditeurs et bonjour à votre invité.
Maître Develay, alors, à la une de l'actualité régionale, ce discours stratégique et important du secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, sur les trois volets, justement, évoqués par Madame Obala, à savoir, bien sûr, la Syrie, la résistance dans la région, mais aussi...
Oui.
Restez avec nous, Madame Obala, on va vous rejoindre dans quelques minutes, s'il vous plaît. Et la crise sociale et politique au Liban. Maître Develay, concernant justement l'importance, en effet, de cette résistance, de ces groupes de résistance dans la région, parce que d'autant plus que Saïd Hassan Nasrallah a appelé aussi au retrait total des forces d'occupation américaines de la région, y compris d'Irak, et a appelé les gouvernements de la région à tirer leçon de la chute morale des États-Unis et de l'échec des États-Unis en Afghanistan. Quel premier regard portez-vous sur ce volet, en effet, du discours de Saïd Hassan Nasrallah?
Oui, bien entendu, ce volet concernant l'Afghanistan, dans un de ses discours, je crois, durant la huitième nuit de Muharram, le secrétaire général du Hezbollah a comparé les scènes de l'Afghanistan avec les scènes de Saigon au Vietnam. Donc, et il a rappelé comment l'histoire des États-Unis avec l'histoire des relations internationales des États-Unis avec leurs alliés est une histoire qui a toujours été marquée par des défaites, par des trahisons, et cela se répète. Et donc, en rappelant ce qui s'est passé en Afghanistan, à travers les trois volets dont j'avais parlé précédemment, le volet palestinien, le volet irakien et le volet libanais, à savoir aussi que dans le volet palestinien, il y a les factions de résistance palestinienne, les factions de résistance irakienne avec Hashd al-Shaabi et le Hezbollah au Liban. Donc, ces trois factions ont prouvé, enfin, ces trois volets de résistance ont prouvé leur efficacité dans la lutte contre l'occupation israélienne, soit toute forme d'oppression de la part de l'État ou face au terrorisme. Okay, donc, il a bien adressé un message direct en disant, en s'adressant aux alliés, aussi bien aux ennemis du Hezbollah, en disant que ne tombez pas dans ce piège, à savoir ne comptez pas sur les États-Unis. Et le scénario se répète, et encore une fois, il s'est répété récemment en Afghanistan. Mais encore, ce qui est très important, c'est qu'il a adressé ce message de mise en garde de ne pas faire confiance aux États-Unis à tous les ONG et à la jeunesse libanaise, qui en fait, il les a qualifiés de pauvres parce qu'ils ne sont pas conscients de ce que fait les États-Unis dans la région, à savoir utiliser les ONG, les organisations non gouvernementales, afin de pouvoir tenter de changer l'opinion publique libanaise et de la retourner contre le Hezbollah.
Merci infiniment, Madame Hoballa.
Si jamais... Oui.
Je vous remercie infiniment, Madame Hoballa. Merci beaucoup. Voilà, on va rejoindre Maître Arnaud Develet, juriste international à Damas. Maître Develet, bonjour.
Oui, rebonjour.
Voilà, rebonjour. Et vous, quel premier regard portez-vous sur ce discours stratégique de Seyyed Hassan Nasrallah, surtout sur cette annonce de la livraison du carburant au Liban par la République islamique d'Iran, d'autant plus que non seulement cette annonce pourrait en effet contrer en grande partie la guerre économique lancée par les États-Unis et leurs alliés, mais surtout assurant en effet ce trajet, l'acheminement en effet de ce corridor allant du Golfe Persique vers la Méditerranée, vers les Caraïbes en passant par la Méditerranée.
Oui, alors écoutez, un grand joueur de poker qu'il est, Seyyed Nasrallah a encore une fois su, si je puis dire, prononcer le discours qu'il fallait au moment où il le fallait, avec des impacts immédiats et extrêmement importants. Quels ont été ces impacts ? Le premier d'entre eux, bien sûr, comme l'a souligné votre invité, ça a été tout de suite pour les Américains de sortir du bois, si je puis dire, et de révéler à la population libanaise, si besoin en était encore requis, que les Américains non seulement disposaient des moyens nécessaires pour soulager la crise que traverse le peuple libanais, que ce n'était donc pas une question, si je puis dire, forcément de gouvernement, de composition de cabinet ou quoi que ce soit. Si on parle d'urgence humanitaire, les Américains avaient parfaitement les outils et les moyens de pouvoir agir promptement. Cela a révélé déjà cette première chose. Et que donc les Américains, comme l'a souligné encore une fois votre invité, ne peuvent pas être des partenaires sur lesquels on peut compter. Ils sont là en fait plutôt pour essayer de semer le désordre et profiter de ce désordre pour avancer leurs pions et leurs intérêts dans la région. Même si cela coûte à la population libanaise énormément de pertes et de désespoir. La deuxième chose, c'est qu'il a quelque part indirectement forcé certains acteurs de la scène politique libanaise à sortir du bois. Je rappellerai à nos auditeurs que l'une des premières remarques sorties médiatiques qui a été, si je puis dire, observée juste après le discours du Seyyed, a été la sortie de l'ancien Premier ministre Saed Hariri, qui a commencé, alors ça c'est assez ironique, à invoquer le fait que l'action unilatérale du secrétaire général du Hezbollah en prononçant ce discours et en annonçant l'arrivée prochaine de pétroliers, de tankers, afin de fournir une aide extrêmement requise pour les hôpitaux et pour les forces libanaises aussi d'ailleurs, que cela en fait violait la souveraineté libanaise. Alors, on ne peut que s'étonner qu'une action qui requiert avant tout un esprit altruiste et transcommunautaire soit perçue comme une violation du Liban, alors que encore hier soir, nous avons assisté à la violation caractérisée de l'espace aérien libanais par les Israéliens et qu'on n'a pas entendu M. Hariri sur le sujet. Donc, ce sont déjà les deux premières choses qu'il faut voir. Qui fait quoi ? Les masques tombent au sein de la scène politique libanaise et au sein de l'opinion publique libanaise. Les Américains sont révélés pour ce qu'ils sont, à savoir des partenaires, entre guillemets, sur lesquels on ne peut pas compter. Et dans le prolongement de la débâcle à Afghan, l'armée américaine, avec les scènes, les séquences médiatiques, ou comme les Américains l'appellent, « bad optics », on a pu voir que leur suppléant, quoi qu'il ne soit requis, dont on n'a plus besoin d'eux, sont en fait dispatchés d'une manière assez cavalière. On peut penser que le message, c'est, voilà, si vous prenez, faites des causes pour le camp atlantiste de manière générale, les Américains en particulier, comme dirait l'autre, faites attention, vous risqueriez de vous retrouver dans une bien mauvaise posture.
Et en ce qui concerne le plan des évolutions, le contexte des évolutions régionales, Maître de Velay, quelle a été l'importance du discours de Seyyed Hassan Nasrallah, d'autant plus que Seyyed Hassan Nasrallah a appelé justement les gouvernements de la région, mais aussi les groupes de résistance et surtout les autorités libanaises à tirer le son de l'échec et de la chute morale des États-Unis en Afghanistan.
C'est très clair, c'est qu'en fait, les discours que le secrétaire général du Hezbollah avait prononcé il y a déjà plusieurs mois de cela, qui portait sur une thématique amenant le Liban à se poser des bonnes questions, à savoir qui sont ses amis et qui sont ses ennemis quelque part, sur qui le Liban peut-il compter, afin de savoir que le Liban devrait peut-être considérer opérer un pivot vers l'Est et développer, cultiver des relations nouvelles, sortir un petit peu du bois traditionnel, à savoir du camp atlantiste-occidentaliste. On s'aperçoit que, encore une fois, dans ce contexte précis, l'un des pays qui est prêt, sans concession aucune, à livrer ce dont le Liban a besoin, c'est la République islamique d'Iran. La République islamique d'Iran, en ce sens, a toujours été parfaitement cohérente et consistante dans son positionnement. Il faut juste que le Liban finisse par comprendre où sont ses intérêts une bonne fois pour toutes.
Seyyed Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah libanais, Maître de Velay, a également mis en garde contre, en effet, le véritable objectif de la présence militaire américaine dans la région. Aujourd'hui, alors comme vous le savez, les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan, donc là, Seyyed Hassan Nasrallah a mis en garde contre la tentative américaine de maintenir leur emprise, en effet, sur les ressources de l'Asie occidentale et surtout de ressusciter le groupe terroriste Daesh, bien sûr, dans le cadre de leurs intérêts dans la région. Et dans ce contexte, il a appelé au retrait total des forces d'occupation américaines de la région, en l'occurrence d'Irak. Là aussi, il paraît que, justement, une nouvelle phase s'est ouverte concernant l'avenir de la présence des forces étrangères et surtout américaines dans la région, entre autres, bien sûr, en Irak et en Syrie, où les États-Unis, justement, alors tout le monde le sait désormais, depuis en effet le mandat de Donald Trump qui avait annoncé que les États-Unis ne lâcheraient absolument pas le pétrole syrien.
Oui, d'ailleurs, cette politique a été amplement renouvelée et, si je puis dire, enrichie, entre guillemets, par l'ancien envoyé spécial Jim Jeffrey, qui a toujours été assez droit dans ses bottes sur la Syrie, ne serait-ce que sur l'occupation du nord-est syrien. Donc on avait effectivement la remarque faite par Donald Trump concernant le fait qu'il fallait garder le pétrole et utiliser le pétrole pour faire pression sur Damas. Mais au-delà de ça, on parle de l'Irak. Effectivement, l'Irak, il a été question d'un retrait, mais lorsque le Premier ministre irakien s'est rendu à Washington, il est revenu avec un plan assez vague de retrait partiel, de requalification des tâches des troupes américaines. Tout ça semble relever plutôt de la fabulation et de l'obfuscation sémantique. Les Américains ne quitteront pas la région pour des raisons stratégiques, idéologiques quelque part aussi, et tactiques. Parce que s'ils quittaient la région, ils ne pourraient pas mettre à mal justement les plans de la Chine de développer l'Asie occidentale et de l'intégrer dans le projet des routes de la soie. Donc il est absolument incohérent d'imaginer que lorsque les Américains vous annoncent qu'ils vont opérer un retrait, cela va se traduire dans les faits. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'il y a actuellement pas moins de 30 000 troupes US en Jordanie, que le pays est littéralement transformé en garnison à ciel ouvert, et qu'on peut penser qu'au cas où il y aurait une décision prise de réenclencher, si je puis dire, les opérations militaires offensives visant à abattre la résistance et abattre les régimes les gouvernements qui sont encore souverains dans la région, cette présence américaine soutenue en Jordanie jouerait un rôle fondamental. Donc, dans ce contexte-là, le discours du secrétaire général du Hezbollah doit être compris dans le sens où il ne faut pas se bercer d'illusions. S'il doit y avoir une émancipation des peuples, elle se fera de manière concertée. Elle doit être, il doit d'abord y avoir une prise de conscience de la situation avant toute opération, tout acte qui permettrait à la région de s'émanciper, tout simplement. Il faut regarder les choses objectivement et il faut que les sociétés civiles, les populations de la région arrêtent de penser que les Américains ont leurs intérêts à cœur. Ce n'est pas le cas. On l'a vu encore en Afghanistan. Après 20 ans d'occupation américaine, le pays est exactement au point où il en était lors de l'invasion en octobre 2001. Et rien n'a changé, le pays est complètement détruit, plus fracturé que jamais, et on peut s'attendre à certainement une recrudescence, un nouveau cycle de violence, avec cette fois-ci un soutien occidental en armes et en équipement, à ce qui semble maintenant s'apparenter à la résurgence d'une alliance du Nord, avec cette fois-ci le fils du commandant Feu, le commandant Massoud, avec déjà Bernard-Henri Lévy qui sort du bois, pour rappeler à la conscience humanitaire de l'Occident, etc., etc., etc.
Et en ce qui concerne la livraison du carburant au Liban par l'Iran, comment vous attendez que cela se passe? En ce qui concerne la réaction justement du tandem américano-israélien, quelles sont leurs marges de manœuvre?
Écoutez, le secrétaire général du Hezbollah a été très clair. Il a déclaré de manière parfaitement explicite que les seraient considérés comme le territoire libanais, propriété de l'État libanais et à but lucratif dans le sens où c'est le peuple libanais qui va bénéficier directement de ces apports. Donc, je pense que tout a été calculé, rien n'est fait au hasard. Je pense que le secrétaire général du Hezbollah a parfaitement compris l'analyse coût contre bénéfice révélait en fait surtout que les Israéliens et les Américains bluffent, qu'ils ne feront rien, parce que là, s'ils venaient maintenant à empêcher le pétrole d'arriver au Liban, je peux vous dire qu'au niveau de la perception de l'opinion publique libanaise quant aux intentions réelles des Américains, il n'y aurait plus aucun doute dans l'esprit des gens. Donc il a parfaitement intégré cette notion et c'est pourquoi il avance avec sérénité et qu'il ne se pose pas de questions. Il est clair dans ses intentions et Merci. Il a parfaitement compris où il va et comment s'y rendre surtout.
Maître Arnaud Develay, juriste international, analyste politique depuis Damas, Madame Radda Obala, géopoliticien depuis Beyrouth, je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.
Que feront les talibans pour financer l'économie de l'Afghanistan? Sans banque centrale ni aide étrangère, les talibans vont avoir du mal à financer l'économie de l'Afghanistan. Les talibans se sont engagés à éradiquer la culture du pavot en Afghanistan, qui était jusque-là une source importante de revenus. Mais avec leur retour au pouvoir, le pays devrait perdre l'aide étrangère et sa banque centrale. Et cela alors que l'Afghanistan dépend très largement de l'aide étrangère, qui, en plus de programmes d'aide directe, a représenté en 2020 une contribution de 18,1 milliards de dollars, soit 66% des revenus de l'État. Ils étaient administrés à travers une série de programmes coordonnés par l'Organisation des Nations Unies, dont il semble certain que les talibans ne bénéficieront pas si leur gouvernement n'est pas reconnu par la communauté internationale. Selon les informations du gouverneur de la Banque centrale afghane, Ajmal Ahmadi, les réserves internationales de la DAP, Banque centrale d'Afghanistan, ne se trouvent pas physiquement dans les coffres, mais placées dans des actifs sûrs et liquides facilement négociables et s'élèvent à environ 9,3 milliards de dollars, 8 milliards d'euros, répartis entre bons du Trésor des États-Unis, 3,4 milliards, placements gérés par la Banque mondiale et 2,3 milliards de dollars sur différents comptes de trésorerie auprès d'institutions dont la Banque des règlements internationaux. Le 18 août, le gouverneur de la DAP a ajouté que l'Afghanistan devait recevoir quelques jours plus tard une première tranche d'aide du Fonds monétaire international FMI d'un montant de 340 millions de dollars dont le virement lui semblait désormais incertain. Dès le lendemain, l'institution confirmait ses doutes dans un communiqué de presse. Comme toujours, le FMI est guidé par les vues de la communauté internationale. Il y a actuellement un manque de clarté au sein de la communauté internationale concernant la reconnaissance d'un gouvernement en Afghanistan, en conséquence de quoi le pays ne peut pas accéder au DTS, droit de tirage spécieux près du FMI, ou à d'autres ressources du FMI. Les talibans, réputés riches, ne pourraient en réalité compter que sur 300 millions à 1,5 milliard de dollars par an, selon un rapport du Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, publié en mai 2020 et cité par Reuters. Les revenus des talibans restent insuffisants pour assurer le fonctionnement de l'État, même si les talibans peuvent en théorie compter récupérer le produit des différentes taxes et impôts de l'État afghan qui représentaient en 2020 environ 12 milliards de dollars. La fin de la culture du pavot. Dans ces conditions, on a le droit de considérer avec scepticisme les déclarations de Zabiullah Mujahid, porte-parole des talibans, qui affirmait le 17 août en conférence presse à Kaboul que l'Afghanistan ne serait plus un pays de culture de l'opium et que sa production allait être réduite à nouveau à zéro, en référence à son interdiction lorsqu'il gouvernait le pays de 1996 à 2001. Pour l'heure, l'Afghanistan produit plus de 80% de l'opium mondial et sa part dans l'économie est telle que, dans les documents statistiques remis au FMI par les autorités afghanes, lorsqu'elle mentionnait le PIB du pays, elle se sentait alors obligée de préciser en note de base de page « hors trafic de stupéfiants ». Alors que la situation économique s'est encore dégradée avec la pandémie de COVID-19, les talibans ont eux-mêmes reconnu que l'amélioration de l'économie ne pourrait se faire sans l'aide de l'étranger. Nous avons eu des échanges avec de nombreux pays. Nous souhaitons qu'elles nous aident, a notamment déclaré leur porte-parole en conférence presse à Kaboul le 17 août. Mais qui est prêt à financer? Et d'où viendra l'aide? Pas du Canada, semble-t-il, où le Premier ministre Justin Trudeau a déjà déclaré que le pays n'avait pas l'intention de reconnaître un gouvernement taliban. Dès le lendemain de la prise de Kaboul par les talibans, Berlin, l'un des 10 plus gros donateurs de l'Afghanistan, a annoncé la fin de son aide. La position américaine, même si l'administration a annoncé le gel des avoirs de la Banque centrale d'Afghanistan, reste en revanche ambiguë. Ainsi, le 17 août, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a déclaré qu'il était trop tôt pour déterminer si les États-Unis reconnaîtraient les talibans comme le pouvoir légitime en Afghanistan, ce qui semble donc laisser une porte ouverte. L'Afghanistan est aujourd'hui peuplé de 33 millions d'habitants, selon les chiffres des autorités, ce qui signifie qu'il a perdu 5 millions, soit environ 15% de sa population au cours des 5 dernières années, principalement du fait d'une émigration massive. C'est un des pays les plus pauvres du monde, avec un produit intérieur brut PIB de 20 milliards de dollars, selon les données les plus récentes de la Banque mondiale, soit un niveau d'activité économique légèrement inférieur à celui du Mali, deux fois moins peuplé. Selon le site du bureau du Conseil économique de la présidence afghane, désormais inaccessible, le taux de chômage était en 2020 d'environ 40%, contre à peine 8% lors de l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement en 2014. Même durée, le pays a presque entièrement effacé sa dette, seul point positif dans sa situation actuelle.